Bonjour Pascal Schenk, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivaine, journaliste, vous avez contribué à la publication d'Irvine Yalom en France et vous avez récemment publié chez Larousse Et tu verras ta vie autrement. Rebonjour Christie Lapelle-Edouelle.
Rebonjour Ali.
Je peux également
Bonjour Pascal. Je
peux également citer votre dernier livre publié chez Marabout, ces livres qui nous font du bien. Alors avant de s'intéresser au parcours d'Irvine Yalom, pouvez-vous nous expliquer Pascal Schenk, en quelques mots, on va y revenir plus précisément tout à l'heure, ce qu'est la thérapie existentielle pour tous ceux qui n'en ont jamais entendu parler?
Bien écoutez, en gros, c'est une psychothérapie qui fait rentrer la philosophie existentielle dans sa pratique, c'est-à-dire qui décide d'aborder de plein fouet et de plein front les grandes questions existentielles qui nous agitent tous. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi allons-nous mourir? Pourquoi allons-nous être séparés de ceux que nous aimons? Enfin, ça n'est pas très très gai, hein. C'est pour ça que quand je vous ai entendu dire qu'il y aurait un air frais, la thérapie existentielle, c'est quand même le fait de se poser les questions les plus importantes de nos vies. Et c'est en passant par ces questions, étrangement, effectivement, que la vie prend un goût nouveau.
Comment définiriez-vous la thérapie existentielle, Christie Lapelle-Edouelle?
C'est faire entrer en effet la philosophie dans, et pas seulement la philosophie, mais en particulier la philosophie, dans la thérapie. C'est une thérapie qui s'éloigne de la psychanalyse et surtout qui envisage le patient non pas comme un malade, mais comme un être humain en quête de sens. Donc ce n'est pas abordé du point de vue de la petite enfance ni des comportements, mais c'est une thérapie qui cherche à mettre en lumière les questions qui sous-tendent l'expression du mal-être, c'est-à-dire les symptômes, hein, pour parler clairement. Et c'est une thérapie qui s'appuie aussi, et c'est vraiment essentiel, sur l'empathie et l'engagement du thérapeute. Et de ce point de vue-là, Irvine Yalom est véritablement un modèle. C'est un homme d'une empathie, d'une chaleur humaine absolument remarquable et qui s'est toujours lui-même engagé, c'est-à-dire que un thérapeute existentiel ne rechigne pas à parler, si c'est nécessaire dans la cure, de sa propre existence et de sa propre expérience, que ne font jamais, au grand jamais, les psychanalystes, là, certainement pas. Donc vous voyez, il y a une différence fondamentale. Ce n'est pas le même point de vue sur la difficulté, sur la douleur du patient. Pas du tout.
Alors, Irvine Yalom est considéré comme l'un des plus grands psychiatres vivants. Quel est son parcours, Pascal Schenk? Irvine D. Yalom, né le 13 juin 1931 à Washington, aux États-Unis.
Oui, alors c'est un petit juif né à Washington, fils d'immigrés russes, dans un milieu très pauvre. Enfin, il dit « mes parents appartenaient à l'ancien monde », qui, petit à petit, pour pas reprendre le commerce de son père, le petit commerce de son père, va se diriger vers la médecine. Et très vite, il va se rendre compte que ce qui le sauve dans sa vie, c'est la lecture de Dostoïevski et de Tolstoï. Ce qui le sort de sa condition, ce qui l'aide à compenser ce manque de culture de ses parents, la relation difficile qu'il a avec sa mère, c'est de pouvoir rentrer en littérature, puis plus tard en philosophie. Et la grande chance qu'il va avoir finalement, c'est que dans les années 60, alors qu'il est un jeune psychiatre, il a désormais choisi la psychiatrie, il va se retrouver plongé dans des groupes de malades atteintes du cancer du sein. Il va animer ces groupes et là, il va faire deux découvertes majeures. La première, c'est que la psychiatrie ne l'a absolument pas préparé à aider ces personnes qui sont confrontées à un diagnostic fatal. Et la deuxième chose, c'est que la littérature va l'aider à comprendre aussi que ces patientes ont une joie de vivre inexplicable. Alors ça, c'est le grand paradoxe. Il dit non seulement j'étais démunie, mais elles, avec ce diagnostic qu'elles avaient reçu, manifestaient un sens de la vie, se remettaient en question, certaines divorçaient, d'autres décidaient, si elles guérissaient, bon, ce qui était à l'époque très difficile, de changer de mode de vie. Et donc voilà, ça va être le début pour lui de cette quête, pourquoi l'annonce d'une maladie fatale nous aide à changer, pourquoi la conscience de notre finitude n'est pas un handicap, mais au contraire un moteur. Et voilà, et à partir de là, il va réunir, il a écrit assez tard, hein, seulement à 50 ans, ses romans, dans lesquels chaque psychothérapeute héros est confronté à ces questions lui-même et dans lequel il va décrire de manière remarquable ce qui se passe entre ces deux compagnons d'humanité, comme il dit, que sont le psychothérapeute et le patient. Il ne se pose jamais en spécialiste, il ne se pose jamais en gestionnaire de la maladie, il est un compagnon sur le même plan que son patient. Alors, il ne faut pas imaginer qu'il parle de Nietzsche et d'Épicure dans ses séances, pas du tout. Mais par contre, il y a une porte qui s'ouvre entre le patient et lui pour pouvoir aborder ces questions de qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de ma solitude, comment je vais faire quand je vais perdre les miens, toutes choses que nous dénions, que nous n'avons pas du tout envie de confronter. Et pourtant, si nous sommes accompagnés sur ces questions-là, le goût de notre vie change. Et voilà, c'est l'admission de la vulnérabilité, c'est la certitude qu'en confrontant nos vulnérabilités, nous deviendrons plus forts. C'est très nietzschéen. Et c'est aussi, en ce moment, je crois, une lecture essentiel. Je voudrais dire, lisez Irvine Yalom en ce moment. Nous sommes vulnérables. Cela nous a été répété deux fois hier dans le discours d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous apprend sans doute l'épreuve que nous traversons tous en ce moment. Alors, lisez Yalom parce qu'il est vraiment sur ces questions-là. Comment on va rebondir? Qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? Qu'est-ce qui va prendre du sens? Qu'est-ce qui va prendre du goût? Et voilà. C'est pour ça qu'il est d'une actualité remarquable.
Et nous conseillerons quelques livres tout à l'heure. Christelle Appelé-Douel, Irvine Yalom se demandait qu'est-ce qu'un bon thérapeute, et il répondait, c'est quelqu'un qui cherche et non quelqu'un qui sait.
Oh oui, mais ça le définit parfaitement. Voilà, on peut retrouver ça à travers tous ces livres dans lesquels toujours il s'interroge et se pose sans cesse cette question. Et d'ailleurs, quand il y répond, oui, c'est quelqu'un qui doute. Il passe sa vie à douter et à se poser éternellement cette question. Est-ce que je suis un bon thérapeute? Est-ce que j'accompagne correctement mes patients? Est-ce que je leur suis d'une utilité quelconque? Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il laisse entrer l'interrogation que lui pose à lui, thérapeute, ses patients. Il ne se contente pas, Pascal vient de le dire, d'affirmer des choses et de poser sur la table des prérequis. Il se laisse envahir par ses patients. Bien sûr, en maintenant, et bien entendu, une distance, hein, mais c'est beaucoup plus proche et beaucoup plus affectif, si je puis dire, qu'une psychanalyse, par exemple. D'ailleurs, il ne rejette pas complètement la psychanalyse. Hein. Il a été psychanalysé lui-même par une femme dont il a parlé, mais il s'en est vite écarté, justement pour cette raison-là, parce que ne lui convenait pas du tout le fait d'être allongé sur le divan et de n'avoir aucune réponse derrière lui. Il posait des questions, il n'avait pas de réponse et pas d'interaction avec son psychanalyste, en tout cas pas celle qu'il attendait. C'est donc aussi à partir de cette expérience qui a été importante pour lui, mais qui n'a pas été complètement satisfaisante, qu'il a cherché d'autres points d'appui, d'autres ressources pour pouvoir venir en aide aux personnes en difficulté et en souffrance.
Pascal Schenck, quelles sont les grandes sources d'inspiration d'Irvine Yalom en tant que thérapeute? Je pense à la figure de Carl Rogers, par exemple.
Oui, alors là, toute la question du lien entre le thérapeute et le patient a été nourrie chez Yalom par l'approche de Carl Rogers, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la séance, dans ces 40 minutes que vont vivre le thérapeute et le patient ensemble, donne des clés pour comprendre la problématique profonde et inconsciente, les conflits psychiques que vit le patient. Donc tout se passe dans cette relation. Le thérapeute est amené à dire, par exemple, c'est bizarre, j'ai l'impression que vous me mentez en ce moment, pourquoi est-ce que j'ai cette impression? Ou bien je ne suis pas très à l'aise quand vous me dites ça. Le thérapeute devient un petit peu le réceptacle, hein, c'est ce qu'on appelle le transfert dans la psychanalyse freudienne, mais revisité par paria l'homme, elle est vue sous un angle très humaniste, comme chez Rogers. Et c'est très intéressant de voir que Yalom n'hésite pas à parler de lui pendant la thérapie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série In Treatment, mm-hmm. en analyse, avec le magnifique Gabriel Byrne dans le rôle du thérapeute. Eh bien, cette série a été inspirée par le travail de Irving Yalom en séance. C'est-à-dire que le thérapeute se sert de ce qu'il ressent pour analyser ce que vit le patient. Ça, c'est très fort. Et tout se passe dans ces 40 minutes. On évalue un peu les symptômes à l'aune de ce qui se passe de défaillant ou bien de très puissant dans la relation avec le thérapeute.
J'exerce la psychothérapie depuis plus de 50 ans. J'ai commencé ma formation avec une psychanalyste freudienne. Elle était extrêmement passive. Je pensais sans arrêt, c'est un très mauvais modèle de psychothérapie. Quand j'ai enseigné à l'université Stanford, j'ai tout de suite enseigné la thérapie de groupe. Les gens commencent à comprendre que les choses qui les préoccupent nous préoccupent tous. Le bon thérapeute combat l'obscurité et cherche la lumière. Je suis un guide dans ce voyage d'exploration intérieure.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Extrait du documentaire Irving Yalom, la thérapie du bonheur. Pascal Schenck, Christy Lapelle-Douel, peut-on dire que l'objectif de la thérapie existentielle, c'est d'alléger la souffrance de l'être humain et peut-on dire que l'acceptation de la mort, c'est la grande affaire de cette thérapie existentielle, Pascal Schenck?
Vous savez, c'est comme dans le bouddhisme, hein, c'est le fait de savoir que tout passera, que cela aussi passera, donne un goût délicieux à tous nos choix, à nos engagements, parce que c'est maintenant, la vie c'est maintenant. Et une bonne thérapie, c'est celle avec Irving Yalom, par exemple, qui permet de faire des choix de sens, de ne plus se laisser enfermer. Il est très, très prolixe aussi sur la liberté, la notion de liberté. La vie c'est maintenant. Donc, si on fait comme si ça n'était pas vrai, si par exemple on pense qu'on est immortel, on va avoir des conduites à risque, on va gâcher du temps, on va se tromper de voix, on va ne pas aimer les bonnes personnes parce qu'on aura l'impression d'être comblé par elles. Alors que si on ose, avec un compagnon d'humanité, parler de toutes ces questions. Vous voyez, par exemple, il a un exercice, je trouve ça formidable, qu'il fait faire en thérapie à ses patients. Il leur demande de tracer une ligne sur une feuille de papier, avec une extrémité la naissance, à l'autre extrémité leur mort. Et il leur demande simplement, où est-ce que vous en êtes? Mettez une croix, où est-ce que vous pensez que vous en êtes sur cette ligne? Et ça, c'est un exercice qui permet à la personne de se demander qu'est-ce que j'ai encore à vivre? Qu'est-ce que je veux encore faire de mes liens avec les autres? Parce que tout cela mène aussi à un enrichissement des liens avec ceux qu'on aime. À l'authenticité. Enfin, c'est très riche, en fait.
Alors, j'aimerais citer quelques lignes de son grand livre « Thérapie existentielle ». L'intégration de la mort dans la vie enrichit cette dernière. Elle permet de se distancier des préoccupations banales, d'avoir un projet de vie et de vivre sur un monde de plus authentique. La pleine conscience de la mort peut susciter des transformations personnelles radicales. Christophe André, vous êtes resté avec nous. Vous êtes en ligne avec nous. Pour vous, « Thérapie existentielle » est un très grand livre d'Irving Yalom.
Ah, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est un livre que j'ai découvert sur les conseils d'un ami qui allait mourir, David Servan-Schreiber, qui m'a recommandé sa lecture. Et évidemment, je l'ai lu avec une attention décuplée du fait du conseil de cet ami proche qui était en train, lui, de faire le travail dont tout le monde vient de parler là, par rapport à l'approche de la mort. Et c'est un livre, alors c'est un livre thérapie existentielle, c'est un livre plutôt pour les thérapeutes qui est un peu technique, mais quand même pour les lecteurs motivés qui comporte des passages magnifiques. Et en fait, c'est vrai que c'est la grande affaire de notre vie. Et étonnamment, l'enseignement académique de la psychothérapie l'oublie souvent. Et on est obligé, comme l'a fait Yalom, de s'écarter de cet enseignement académique, de faire des choses inhabituelles. Moi, je me souviens qu'avec mes patients qui avaient peur de la mort, nous allions souvent faire des séances dans le cimetière du Montparnasse. On allait faire la séance de thérapie sur les tombes, sur les bancs du cimetière, et que c'était quelque chose de formidable quand même. Alors on le faisait évidemment une fois qu'ils étaient prêts à s'engager dans l'exercice, mais d'étonnant de parler au fond de du fait ce que nous savons tous, hein, c'est l'écrivain Paul Valéry qui disait « L'homme est adossé à la mort comme le causeur à la cheminée ». On sait tous qu'on va mourir, mais on préfère tous tourner le dos à cette hypothèse. Et dès qu'on se retourne, dès qu'on regarde cette histoire en face, souvent il vaut mieux ne pas le faire tout seul si on est anxieux, effectivement, notre regard et notre perspective sur la vie changent de façon radicale.
Alors la grande particularité des romans de d'Irvine Yalom, c'est qu'il s'agit de romans pédagogiques. Romans pédagogiques pourraient rimer avec lourdeur, Christina Pelédouel. Il n'en est rien, en tout cas de mon point de vue. Qu'est-ce que vous conseillez pour ceux qui découvrent là ce matin Irvine Yalom ? Alors il y a la méthode Schopenhauer, il y a le jardin d'Épicure, il y a Mensonge sur le divan. Qu'est-ce que vous conseillez
Alors, moi, je crois que j'aime tous les livres de Yalom, donc ça va être compliqué, mais j'en ai quand même choisi trois. Le premier, c'est en fait un des derniers, qui est une autobiographie, « Comment je suis devenue moi-même », publié chez Albin Michel. Et ce livre, il est formidable pour entrer dans la pensée, dans la pratique d'Irvine Yalom, parce qu'on suit toute sa trajectoire depuis qu'il était enfant, jeune homme avec une famille très difficile, une mère très difficile, puis toutes ces étapes, sa rencontre absolument essentielle parce qu'on n'en a pas parlé, mais une des clés pour comprendre la thérapie Yalom, c'est l'importance de l'amour dans l'existence. Et lui en est un exemple parfait puisqu'il vit depuis plus de 60 ans avec son épouse Marilyn qui est universitaire. Et donc voilà, on suit son cheminement et on entre peu à peu dans sa pensée, dans sa réflexion, dans la manière dont il est arrivé à la thérapie existentielle. Pour moi, c'est vraiment un livre formidable, un livre clé. La thérapie existentielle, pas la peine d'y revenir, Christophe vient d'en parler. Et le dernier que j'adore vraiment, je crois que c'est un de ceux que je préfère, c'est Le problème Spinoza, qui est un très grand livre parce qu'il aborde des questions qui sont essentielles, pas seulement la question de la mort, il aborde évidemment cette question de la mort, mais il se pose la question de savoir aussi ce que sont le bien et le mal. Sont opposés là le Spinoza, donc le philosophe, du XVIIe siècle hollandais, et un terrible nazi qui a véritablement existé et qui, en arrivant en Hollande, a mis la main sur la bibliothèque de Spinoza parce qu'il voulait arriver à comprendre comment un grand écrivain comme Goethe, par exemple, faisait de Spinoza un de ses auteurs favoris. Comment un juif comme Spinoza avait pu inspirer un des plus grands auteurs allemands. Pour moi, c'est un livre absolument extraordinaire, d'une richesse philosophique, de réflexion, une richesse humaine. C'est un des plus beaux livres de mon point
Christina,
de vue.
C'est mon goût. Christina, laissons quand même Pascal Schenck donner un conseil dans la minute qui nous vient. Pascal Schenck, un conseil de lecture.
Merci. Oui, alors bon, bah, moi, c'est vrai que j'adore. Le premier que j'ai lu, c'est la méthode Schopenhauer, qui s'appelle « Apprendre à mourir », qui raconte l'histoire de ce psychothérapeute atteint d'un mélanome qui arrive dans son groupe de thérapie et qui se demande s'il va dire à ses patients la vérité ou pas. Il le dit, et là, on comprend tout ce qui se passe entre les êtres humains qui savent qu'ils sont mortels. C'est un roman admirable. Et puis, « Mensonge sur le divan », que j'aime beaucoup parce qu'il pose la question du mensonge. Pourquoi on ment, finalement? Et ça, c'est remarquable. Et je voulais juste rebondir, Priscilla a parlé de l'amour. Oui, bien sûr, il en parle. Et surtout, il l'a vécu avec sa femme Marilyn. Et je dois vous partager que sur sa page Facebook, le 31 mars, Irvine Yalom a annoncé la mort de Marilyn. On a tous pleuré parce qu'il a fait un texte absolument remarquable sur leur dernière promenade, comment ils ont décidé tous les deux d'écrire un livre ensemble.
Merci.
Là encore, Monsieur Yalom parle de lui. Là encore.
Merci beaucoup Pascal Schenck. Et je rappelle le triptyque du bonheur selon Irvine Yalom. Aimer, créer, travailler. Merci beaucoup Pascal Schenck, Christina Pelédouel et Christophe André.